Ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que se trouve le vrai culte. Jésus disait à la Samaritaine que le lieu importait peu, que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, c'est là qu'il est au milieu d'eux. Que ce soit la clairière des Indiens ou que ce soit ici, peu importe, l'essentiel est que nous soyons conscients que le vivant, celui qui se révèle au cœur, est au milieu de nous. Dieu notre Père, nous invoquons ton nom et la puissance de ton esprit sur cette assemblée. Nous te prions de toucher nos cœurs, de réveiller notre pure intelligence et de parler aussi à nos consciences d'une façon très profonde. Mais surtout, Seigneur, que nos cœurs puissent être touchés et s'ouvrent à l'abondance de ta grâce et que naisse en chacun de nous ce feu qui ira en augmentant, se transformant en une vive flamme d'amour pour ce que tu es, ô Dieu, un bien-aimé. Que ta grâce nous soit accordée pour pouvoir discerner en toi l'amour. L'amour que le monde ne connaît pas. L'amour qui a été si galvaudé. Donne-nous d'en retrouver la source et que nous puissions découvrir quels sont les chemins de l'amour dans la foi et dans l'espérance. Amen. Eh bien, mes amis, en ce 26 juillet, nous continuons très simplement notre thème du camp Mahanaïm, qui donc est Dieu, et pour le découvrir d'une façon plus réelle, nous plongeons dans l'étude du Cantique des Cantiques que nous avons commencé au début de notre camp, qui dès l'origine était un camp de 15 jours, pour que ceux qui ont le goût de s'inscrire dans la parole puissent avoir du temps de se familiariser avec les richesses de l'Écriture sainte. Plus tard, nous avons pensé donner peut-être aussi une occasion à des personnes qui n'avaient pas 15 jours, et c'est ainsi que nous avons coupé le camp en deux, mais nous restons fidèles à notre première pensée. Il est évident que ça aurait été plus simple pour moi de faire deux thèmes différents, un pour le premier camp, un pour le second, mais alors je n'aurais pas pu traiter le Cantique des Cantiques. Parce que traiter le Cantique des Cantiques en une semaine, nous n'aurions fait que l'effleurer, alors que pourtant, nous nous sommes rendus compte que nous ne faisions que l'effleurer, et que nous volions à très haute altitude, au-dessus de vérités merveilleuses, au-dessus de beauté incomparable. Et peut-être avez-vous le goût de refaire ce voyage, mais par petites étapes, le Seigneur vous conduira et vous bénira quand vous vous arrêterez à chaque verset. Et vous verrez qu'on peut passer une journée, une semaine sur un seul texte. Ce matin, nous vous demandions de lire les versets 2 à 8. Je les lirai, quoique nous les développerons davantage encore dans la suite. Je dormais Mais mon cœur était réveillé. Vous avez tous le texte. C'est la voix de mon bien-aimé qui heurte. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est pleine de rosée, mes boucles des gouttes de la nuit. Je me suis dépouillé de ma tunique, comment la revêtirais-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirais-je? Mon bien-aimé a avancé sa main par les guichets et mes entrailles se sont émues à cause de lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe et de mes doigts la myrrhe limpide sur les poignées du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'était retiré. Il avait passé plus loin. Mon âme s'en était allée pendant qu'il parlait. Je le cherchais, mais je ne le trouvais pas. Je l'appelais, mais il ne me répondit pas. Les gardes qui font la ronde par la ville me trouvèrent. Ils me frappèrent, ils m'ont blessé. Les gardes des murailles m'ont ôté mon voile de dessus moi. Je vous adjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Encore une fois, nous demandons au Seigneur de nous sanctifier par sa parole. Mes amis, je n'ai pas en ce jour à justifier le choix du livre que nous étudions pour répondre à la question de notre thème, qui donc est Dieu. Quand le Seigneur a mis sur mon cœur de faire encore cette année un camp Mahanaïm au Québec, le livre du Cantique des Cantiques m'a été imposé, et je dirais qu'il m'a été imposé avec amour, avec joie, et que j'ai ressenti à ce moment-là une paix profonde. Il m'a été imposé par mon Père des cieux, qui me fait encore cette année la grâce de pouvoir le servir. Pourtant, à mesure que la date du camp se rapprochait, je me suis mis à trembler devant la tâche qui m'attendait. Et certaines personnes, sachant que j'avais cette pensée de traiter le Cantique des Cantiques, se sont émues et m'ont dit que je relevais un terrible défi. Et ils pensaient que ce serait une catastrophe. On me l'a dit et on me l'a écrit. Et j'aurais voulu dire à ce moment-là à mon maître, envoie si tu voudras, car je suis un homme n'ayant pas la parole facile, comme l'avait dit Moïse dans le livre de l'Exode, quand Dieu l'appelle à 80 ans à aller auprès du Pharaon. Et encore, je pouvais me souvenir de cette parole du livre des Proverbes, que j'ai déjà cité dans le premier camp. Certes, je suis plus stupide que personne, chapitre 30, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse. Je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux, qui en est descendu, qui a recueilli le vent dans sa main, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre, quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Puis juste après, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Et je termine par le verset 6e. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Donc vous voyez, c'est une grande responsabilité que de vous enseigner ce livre du Cantique des Cantiques, comme aussi d'enseigner la parole, quel que soit le livre que nous étudions. Alors, la réponse de Dieu pour moi a été celle-ci. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai jour après jour ce que tu auras à dire. Vous avez ce verset dans Exode 4. Mais c'est jour après jour. Tu ne peux pas te préparer d'une certaine façon puis apporter quelque chose de tout plaqué. Tu devras jour après jour, même dans la nuit, te tenir devant moi pour écouter, pour recevoir et apporter quelque chose qui corresponde aux besoins précis des cœurs. Et je me suis souvenu alors de ce que le Seigneur m'avait dit il y a 4 ans, le jour de la fête des tabernacles. J'étais à Jérusalem, et je me souviendrai toujours de ce sabbat, où nous lisions le psaume 81, et où tout à coup l'Esprit de Dieu m'a transpercé, alors qu'on lisait là, en hébreu, ce psaume 81, quand on est arrivé à ce texte que je pouvais suivre dans ma version, « Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Et là, j'avais eu comme une espèce de vision de ce que le Seigneur voulait de plus en plus de moi, que je ne sois que sa bouche. Et qu'est-ce que c'est sa bouche? C'est être son prophète. Un prophète, il est simplement la bouche du Seigneur. Il ne dit pas ce qu'il trouve au fond de son propre cœur, mais il transmet le message qui vient du sanctuaire. Et une des difficultés est justement que nous avons accepté de partager, comme je l'ai dit tout à l'heure, en deux ces 15 jours de camp, en pensant à certains qui n'auraient pas 15 jours de vacances. Alors, les participants au demi-camp n'allaient-ils pas être frustrés, ceux qui nous quittent, avant d'avoir achevé le livre commencé? Est-ce qu'il y a une certaine frustration? Et ceux qui s'ajoutent à nous, sans avoir entendu les leçons de la première partie? C'est possible. Cependant, comme la bien-aimée du Cantique des Cantiques, chaque chant sont bien aimés, pour moi, si je voulais arriver à quelque chose, il me fallait passer plus loin, comme nous l'avons vu. Il ne fallait pas m'arrêter à certaines gardes. Il faut aller plus loin que les gardes qui ne peuvent répondre à mon problème. On peut me critiquer, on peut me dire, vous n'auriez pas dû prendre ce livre. Mais ça ne m'avance pas de me dire ça. Parce que vous avez toutes ces gardes-là qui veulent vous conseiller ce que vous devez faire. Alors, à ceux qui nous quittent, je dis ceci. Si vous avez trouvé le bien-aimé, si vous l'avez saisi, on reste dans le chapitre 3, si vous l'avez trouvé, si vous l'avez saisi, ne le lâchez pas. Vous comprenez? Ne le lâchez pas. Ceux qui n'étaient pas là, bien, vous lirez vous-même tout le livre aujourd'hui. C'est la tâche que je vous demanderai. Vous recevez le petit livret là, et votre tâche, c'est de lire depuis le commencement à la fin. C'est ce que nous avons fait au premier temps, avec tous. Mais je ne veux pas imposer à nouveau cette lecture à tous ceux qui ont déjà pris connaissance à fond de ce livre. Alors, votre tâche, à vous, les nouveaux, c'est dans la journée, surtout s'il pleut, vous aurez l'occasion de le faire, lisez ces 8 chapitres, et ne vous inquiétez pas s'il y a un tas de choses que vous ne comprenez pas. Ça va s'éclairer par la grâce du Seigneur et qui va vous donner autant qu'aux autres. Car ce que le Seigneur nous a dit, toujours pour nous encourager, il y a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Il peut vous éclairer en peu de temps et il n'a pas même besoin de mes leçons pour le faire. Si vous êtes dans l'Esprit du Seigneur et que vous lisez vous-même en disant « Seigneur, montre-moi ce que tu veux me dire », eh bien vous recevrez déjà aujourd'hui une grande bénédiction dans votre lecture, et vous comprendrez peut-être des choses que ceux du premier temps n'ont pas compris dans la première lecture. Vous les comprendrez, ces choses, dans cette première lecture, parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Alors, à vous qui avez trouvé le bien-aimé, qui l'avez saisi, je dis, ne le lâchez pas, il se laissera conduire par vous à la maison de votre mère, là où vous retournez, où il continuera de vous enseigner lui-même pour la fin du livre. Car lui est la clé, et vous l'avez bien compris, j'espère, il est la clé de ce livre. Et à ceux qui s'ajoutent à nous aujourd'hui, eh bien, je dirais ceci, appliquez-vous à lire pour vous-même, aujourd'hui, ce livre en entier, et pour tout ce qui vous paraîtra obscur, souvenez-vous de l'enseignement de Jésus dans l'Évangile, un enseignement que nous avons mis en pratique dans toute cette semaine, et qui disait, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui heurte. Matthieu 7, verset 7 à 8. Mais alors, que vous soyez avec nous, nouveaux, ou que vous soyez loin de nous, anciens bien-aimés, eh bien, faites ces requêtes dans l'humilité, car vous le savez, Dieu résiste aux orgueilleux. Et cela, c'est une leçon qu'il m'a donnée à moi-même. Quand je ne comprends pas quelque chose, alors que l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que je devrais pouvoir comprendre. Et pourquoi est-ce que je ne comprends pas? Il y a peut-être de l'orgueil dans mon cœur. Alors je m'humilie. Je m'humilie, et je demande au Seigneur de me montrer ce qui n'est peut-être pas en ordre dans ma vie. Et je lui dis la prière du psaume 139 que vous connaissez tous, les derniers versets. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde s'il y a une voie de chagrin en moi, quelque chose qui ne te plaît pas, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Puisqu'il m'aime d'un amour éternel, il me conduira dans la voie de l'éternité. Nous avons reçu l'onction de la part du Saint. Et cette onction nous enseigne quoi? Certaines choses? Toutes choses. Donc, je puis compter sur la lumière de l'Esprit de Dieu. Mais si je ne suis pas éclairé, eh bien, je sais qu'il y a peut-être en moi quelque chose qui doit être jugé. Et je m'humilie. Et j'en ai fait l'expérience pendant toute ma vie au service de Dieu, que je ne me suis jamais trompé en m'humiliant. Le Seigneur, c'est lui qui nous relève, et vous ne vous trompez pas quand vous vous humiliez. Et je vous lis ces versets du chapitre 4 de l'épître de Jacques, où il est dit ceci, verset 3, vous demandez, parce que vous me dites, mais moi il y a longtemps que je prie pour certaines choses, et vous demandez, et vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Il y en a qui ont toute espèce de passion, mais la passion d'en savoir plus. Si c'est simplement intellectuel, votre recherche, ne pensez pas que le Seigneur va vous éclairer. Il ne nous éclaire sur certaines vérités que lorsqu'on a mis en pratique ce que l'on connaît déjà. C'est une règle absolument simple. Si vous ne mettez pas en pratique ce que vous connaissez déjà, le Seigneur ne vous révélera rien de plus. Parce qu'il ne ferait qu'augmenter votre culpabilité. Comprenez-vous? Il faut que vous viviez d'abord ce qu'il vous a montré. Il faut que vous soyez conséquent sur ce que vous avez compris. Alors il vous donnera plus de lumière. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va en augmentant jusqu'au plein midi. Et c'est un chemin de lumière. Il faut avancer et vivre ce que l'on a appris. Et faire attention justement que nous puissions voir quelle est notre passion, la passion d'étudier pour étudier ou la passion d'étudier pour vivre, pour mieux connaître afin de mieux aimer. Car le Seigneur dit par la plume de Jacques, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Ce qui vous empêche de comprendre les Écritures, c'est votre amour du monde. Soyez certains de cela. Tant que le monde est ce qui est dans le monde, ces convoitises qui sont dépeintes dans la première épître de Jean au chapitre 2, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, tant que le monde captive encore vos cœurs, hypnotise vos regards et vos cœurs, le Seigneur ne peut pas vous révéler tout ce qu'il voudrait. Vous commettez un adultère spirituel. Et cela, c'est très grave. Le Seigneur est sensible à cela. Nous avons vu, et vous l'apprendrez, les nouveaux, que depuis notre conversion, notre condition devant le Père des cieux, c'est que nous sommes les fiancés du Christ. Vous êtes fiancés au Christ. Vous êtes encore dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. De sorte que, étant dans le monde, forcément, vous aurez des sollicitations. On vous trouve belle, aimable, on vous trouve toutes sortes de qualités, de dons naturels, et au fond, le monde vous attire, le monde dit qu'il pourrait vous employer, qu'il pourrait vous utiliser, et qu'il vous donnera bien des satisfactions. Souvenez-vous que le prince de ce monde, c'est Satan. C'est un menteur et un meurtrier. Et Jésus disait, moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde vous fait croire qu'il vous donne, mais en réalité, il ne vous donne rien. Tout se paye dans le monde. Et le monde, au fond, il a l'air de vous donner quelque chose, mais pourquoi? Pour vous posséder, pour vous prendre. Tandis que le Seigneur, lui, eh bien, ce qu'il nous apporte, tout est gratuit en lui et il ne veut pas nous dominer. Il veut seulement se mettre tellement à nos pieds pour nous aimer, pour nous servir, que nous soyons vaincus par son ineffable amour. Alors, souvenez-vous que les obstacles dont vous me parlez, vous êtes dans la crainte, nous allons retourner, puis on n'aura plus la même ambiance qu'au camp. Que vous soyez au camp ou que vous soyez hors du camp, le Seigneur est le même. Alors, veillez à l'adultère spirituel. Ne savez-vous pas, c'est pas moi qui vous le dis, c'est le Seigneur, que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alors ne pensez pas que Dieu vous parlera face à face comme il parlait à qui? À Moïse. Comme un homme parle à son ami. Parce que vous vous constituez vous-même ennemi de Dieu. Verset 5. Croyez que l'Écriture, c'est tout cet Ancien Testament, c'est ce que nous avons lu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit. Prie qu'il a fait habiter en vous. Est-ce que vous comprenez cela, oh, que le Seigneur le fasse? Que le Saint-Esprit nous éclaire. Le Saint-Esprit peut souffrir en vous. Le Saint-Esprit est souvent contristé en vous. Il est attristé par votre manière de parler, par votre manière de faire, même peut-être de vous vêtir. C'est dans le détail que vous devez voir ces choses. Et le Seigneur, il chérit avec jalousie l'Esprit qui est en vous, qu'il a fait habiter en vous. C'est pas vous qui l'avez fait descendre, il l'a fait habiter en vous. Et voyez-vous, verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Voilà, cette irrésolution qui vous coule. Devenez des gens résolus. Ne clochez plus des deux pieds. Prenez position entièrement pour le Seigneur. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est là le chemin de la bénédiction. Et je vous le rappelle très simplement, Jacques 4, versets 3 à 10. Alors, vous qui partez et qui devrez poursuivre seul l'étude du Cantique des Cantiques, je vous donne ce seul conseil, restez à l'école de Jésus. Et vous qui venez nous rejoindre, mettez-vous à cette école dont nous allons vous apprendre ou vous rappeler très simplement les règles. Je dirais que certains trouveront que je tourne bien en rond dans ma manière de vous exposer les choses. Avec beaucoup de gentillesse, ils attribueront ma manière de faire à de la fatigue. C'est vrai que je reviens souvent sur les mêmes choses et que par moments j'ai l'air de m'écarter ou de sortir du sujet. Mais c'est pourtant la manière des apôtres. Et avant eux, si vous lisez un peu la Bible, la manière des prophètes. C'est la méthode de Jésus et c'est celle du Saint-Esprit. Et je le dis en toute humilité. Alors supportez-moi et croyez que je ne parle pas pour être enregistré. J'ai cela en horreur. Pas mon frère qui enregistre. Mais si je devais penser que je suis enregistré, ben j'essayerais de vous faire quelque chose de structuré. Or, je ne suis pas ici pour être enregistré. Si vous les voulez, ces enregistrements, c'est votre affaire. Et ne croyez pas que j'ai des droits d'auteur là-dessus. Parce que tout le monde s'en sert, et moi, je n'entends jamais parler. Et la plupart du temps, où que je sois, quand on m'enregistre, eh bien, c'est moi qui dois demander les enregistrements. Et à part quelques exceptions, je dois les payer. Et maintenant, avec certaines organisations, parce que l'évangélisme devient de plus en plus du business, on fait même du bénéfice avec les cassettes. Parce qu'il y a toute une organisation maintenant qui devient, à mon sens, assez monstrueuse. Je ne gagne pas ma vie en prêchant l'évangile. Je prêche l'évangile parce qu'un jour Dieu m'a appelé. Et il y a 50 ans de cela, cette année. Et je sais à quelle heure il m'a appelé, le lieu où j'étais à genoux devant ma chaise, et l'âge que j'avais quand il m'a dit de le servir sans passer par les écoles de ce monde. C'était très humiliant pour moi. Mais il me l'a dit. Et j'ai dû le faire. S'il y a parmi vous des personnes qui sont versées dans les Écritures et qui voudraient me voir apporter des messages plus structurés à la manière de ce que l'on apprend aux écoles de ce monde, eh bien que ces personnes aillent dans leur communauté imprégnée de la Bible, ou dans une faculté de théologie, ou encore dans l'un ou l'autre de ces instituts bibliques, où j'ai parfois, et bien souvent au cours de ces années, enseigné aussi. Mais ici, nous sommes pas dans un institut biblique ou dans une faculté. Nous sommes à l'école de Jésus, qui se met à la portée de l'élève le moins avancé, le plus médiocre. Et Dieu m'a montré que je devais annoncer Jésus et exhorter tout homme et instruire tout homme, non pas former une espèce d'élite. Les leaders, vous n'entendez que cela dans les instituts bibliques, dans les milieux qui veulent façonner les âmes pour le service de Dieu. Il faut faire des leaders. Puis vous aurez tous les leaders en avant. Et le peuple, il est délaissé. Pourquoi? Parce qu'on ne se met pas à sa portée. Parce qu'on ne prend pas le temps de revenir, d'expliquer encore, comme une maman qui aime son enfant et qui ne se décourage pas parce qu'il n'a rien compris à ce qu'elle lui avait dit. L'apôtre Paul m'a enseigné qu'il fallait être comme une nourrice avec chaque âme pour donner le plus possible. Et qu'il ne fallait pas regarder à la fatigue que l'on peut avoir. Bien sûr que notre corps se fatigue. Bien sûr que nous sommes des êtres limités. Mais pour qui vivons-nous? Jésus n'avait pas le temps de manger parce que pendant ces 3 années, il se donnait entièrement à qui? À l'élite de son peuple. L'élite de son peuple méprisé. Il n'a pas étudié, puis il nous enseigne. Et comment connaît-il les Écritures puisqu'il n'a pas étudié? Voilà ce qu'on disait de Jésus. Elle lui disait, mais ma doctrine à moi, elle ne vient pas des écoles du monde. Ma doctrine, elle n'est pas la mienne. Je ne suis pas un autodidacte. Je ne dirai jamais que je suis un autodidacte parce que je ne peux pas me réclamer de certains maîtres, comme on l'entend si souvent, mon maître. Ce que nous vous enseignons, nous l'avons reçu, nous le recevons du sanctuaire. Oui, nous désirons instruire tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu un jour tout homme rendu parfait en Christ. Et voyez-vous, j'ai vu ce que l'Écriture peut faire, même sur des gens sans culture. Il leur donne, par cette culture biblique, une finesse, une politesse qu'ils n'ont pas appris aux écoles de ce monde. Alors qu'il y a des gens qui ont été à toutes les écoles de ce monde, qui ont étudié toutes les philosophies possibles, qui sont versées dans un tas de branches et qui se conduisent comme des rustres, qui n'ont pas cette éducation du cœur. C'est seulement à l'école de Jésus que nous recevons cette éducation du cœur. Alors, souvenez-vous aussi, et si j'ai l'air quelquefois de sortir de mon sujet, ce principe de l'exégèse hébraïque auquel je tiens beaucoup, qui veut que chaque verset biblique ait combien de sens? 70 sens. Différents, mais pas contradictoires. Mais on peut lire l'Écriture et suivre une ligne, et puis ensuite suivre une autre ligne avec les mêmes versets, pas pour opposer les deux pensées, mais pour les réunir dans une unité merveilleuse. Et en cela, nous croyons que la sagesse hébraïque a raison contre notre logique. On sait que sur un bon métal, vous avez déjà vu un forgeron? Peut-être pas, hein? Mais moi dans mon enfance, j'étais hypnotisé par notre maréchal ferrant de mon village. Quand je le voyais battre le fer sur l'enclume, hein, ce fer roulait au feu, eh bien, chaque coup de marteau, qu'est-ce que ça faisait? Ça arrachait de nouvelles gerbes d'étincelles. Alors, il donne pas un coup, alors voilà, vous avez tout vu. Hein? Il y a eu de magnifiques étincelles. Un second coup de marteau, en voilà encore. Un troisième coup de marteau, en voilà encore. De nouvelles gerbes d'étincelles. Et toutes proviennent de la même source qui reste quand même intacte. Et c'est ça qui est merveilleux. Plus vous frappez sur l'enclume, plus vous formez le fer comme le Seigneur le veut, hein, mais il reste intact. C'est une unité merveilleuse. Alors, je rappelle très brièvement les règles, et ceux qui les connaissent déjà ne m'en voudront pas si j'essaye de faire participer les nouveaux campeurs à la bénédiction, parce que je veux croire que vous avez été bénis malgré tout. Hein. Certains l'ont dit, en tout cas hier soir. Alors, je voudrais que vous soyez assez généreux, puisque vous avez été bénis, d'être heureux que d'autres puissent rentrer aussi dans la bénédiction que vous avez reçue. Comment et qui peut entrer à l'école de Jésus? Vous savez, quand on veut entrer dans une école biblique ou à l'université, il faut des prérequis. Et alors, des lettres de recommandation aussi. Eh bien, qui peut entrer à l'école de Jésus? Matthieu 11, verset 28. Ça vous a été rappelé hier. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il y en a qui sont fatigués, oui, c'est vrai. Eh bien, venez à l'école de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos. Je vous donnerai le repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, ou apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Deuxième point que je souligne, si vous voulez vraiment être à l'école de Jésus, eh bien, devenez comme des petits-enfants. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, chapitre 18 de Matthieu, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme un petit-enfant, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Il faut que vous changiez de pensée. Quand vous lisez le Cantique des Cantiques, peut-être la première lecture vous fait penser à l'amour éros, hein, à l'amour du monde, à l'amour comme on en parle dans ce monde. C'est la première pensée qui peut vous venir. Eh bien, justement, vous devez vous convertir. Et qu'est-ce que c'est se convertir? C'est pas changer de religion, c'est changer de pensée, c'est changer de centre. Au lieu de voir l'être charnel, vous voyez maintenant l'être spirituel. Et alors, vous avez une vue toute différente sur les textes que vous lisez. C'est ce que le Seigneur dit. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas votre mentalité, si vous ne lisez pas avec les pieds déchaussés et avec des yeux purifiés, eh bien, le Cantique des Cantiques vous occasionnera même des chutes. Cette lecture doit être faite avec un cœur purifié. Comme le cœur d'un enfant, il ne pense pas à toute espèce de choses. Il se laisse enseigner. Troisièmement, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Luc 8, verset 18. Alors, nous vous disons, essayez de lire non seulement le texte, mais lisez-le à haute voix pour entendre en même temps le texte que vous voyez et qui vous pénètre et qui entre en vous. Et puis, si vous avez entendu quelque chose, si vous avez écouté dans le texte, dans le silence, eh bien, mettez en pratique. Car, souvenez-vous d'une autre règle, pas un seul trait de lettre ne sera supprimé de l'écriture. Tout s'accomplira, tout a un sens. Matthieu 5, verset 17 à 20. Et puis, réjouissez-vous parce que le Seigneur vous accepte tous. Il l'a dit, en vibrant d'amour devant ses disciples illettrés, il a dit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits-enfants. Ayez un cœur d'enfant. Oui, j'ai pu dire ces choses-là, d'avoir un cœur d'enfant en plein quartier latin à Paris pendant 18 soirs où j'enseignais la parole dans la ville de Paris à tout le peuple qui venait en masse. Eh bien, peu importe le lieu où l'on se trouve, même à côté de la Sorbonne, il faut avoir un cœur d'enfant. Et je me souviens toujours de cet élève de Jean-Paul Sartre, qui était en philosophie, qui m'a dit un jour, à la fin de la conférence, « Comment avoir un cœur d'enfant ?» Il avait saisi que, vraiment, il faut ce cœur d'enfant pour comprendre l'Écriture. Sinon, eh bien, la Bible, c'est un livre d'une certaine religion, et on la compare au Coran. Puis les gens nous disent, mais oui, mais c'est la même chose que le Coran, hein. C'est la même chose que les livres hindous. Vous savez, nous sommes des drôles de menteurs, puis on se laisse impressionner par les raisonnements des gens. Il ne faut pas se laisser démonter. Jésus ne se laissait jamais démonter. Quand quelqu'un vous dit que c'est la même chose que le Coran, vous dites, vous connaissez le Coran? Oui, j'ai lu tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'une sourate? Ça grimace. Non, c'est pas une grimace, la sourate. C'est un verset du Coran. On appelle ça sourate. Et ils nous prétendent qu'ils connaissent le Coran. Ils savent pas même ce que c'est qu'une sourate. Les gens sont menteurs. Ils vous disent des mensonges. Que Dieu soit vrai et tout homme menteur. Vous savez que ce verset m'a beaucoup aidé dans le contact, dans ce cœur à cœur qu'on doit avoir avec certaines personnes. Ils essayent de vous en mettre plein la vue. On n'essaye pas de leur en mettre plein la vue. Puis on n'essaye pas de les convertir nous-mêmes. Parce qu'on sait très bien qu'on ne fait rien. C'est le Seigneur qui nous demande de témoigner. Et c'est lui, par son esprit, qui convainc les âmes de péché. Comprenez-vous? C'est pas notre boulot, c'est pas notre travail. Et quand quelqu'un à qui j'avais dit, un évangéliste, j'avais dit, mais pourquoi tu emploies ces méthodes? Je dis, moi, je fais mon boulot, puis je dis à Dieu, fais le reste. Une fois que j'ai fait mon boulot, ben que Dieu fasse son boulot à lui. Alors il y a deux boulots? Non. Il y a plusieurs boulots, oui. Mais dans la forêt, je fais un jeu de mots. Hein. Mais quand on est dépendant de Dieu, il n'y a qu'un travail. C'est le travail de Dieu. Par les uns ou par les autres. C'est le travail de Dieu. Il n'y a pas mon travail à moi, homme, et puis le travail de Dieu après. Dieu travaille avec ses instruments. Nous ne sommes pas ses agents, nous sommes ses instruments. Et c'est cela que vous devez bien comprendre. Dans un monde en folie, dans un monde religieux qui dévie complètement du sentier du Seigneur. Car imprégnez-vous de la manière du Seigneur, comment il s'approchait des âmes. C'est cela que vous devez croire. Et moi, je suis responsable de vous dire ces choses. Oui, Dieu a caché ses choses aux sages et aux intelligents, mais il les a révélées aux petits-enfants. C'est là la volonté de Dieu. Et alors, comme il l'a dit, le scribe versé dans les Écritures, il produit du bon trésor de son cœur, des choses nouvelles et des choses vieilles. Vous entendrez dans ce que nous pouvons vous enseigner des choses que vous saviez déjà. Des choses que vous connaissiez, nous n'avons pas la prétention de vous apporter des choses nouvelles. Mais peut-être en découvrirez-vous de ces choses nouvelles qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent du Seigneur. Et quand nous croyons avoir découvert une chose nouvelle, puis on est tout heureux, hein, le Seigneur m'a fait une révélation. J'ai raconté quelquefois la lumière qu'il m'avait donnée sur la femme samaritaine. Un jour, j'étais dans un camp au Chambon-sur-Lignon, dans la Haute-Noire, j'étais sous un sapin.